en attendant que Pierre nous trouve une solution technique, je vais commencer à vous présenter nos invités. Donc trois invités. Je vais commencer par Madame Nicola Glenn, donc qui est écossaise, qui travaille dans l'Institut Five Society for the Blind à Kirkcaldy et qui est ergothérapeute. Alors, elle a gentiment remplacé Alan Sutty, qui, pour des raisons de santé, a dû annuler son voyage en France. Je vous présente John Harris, résident du Pays de Galles. Il ne se prive pas de me le rappeler pendant le tournoi Destination chaque année. Diplômé d'histoire, qui s'est spécialisé il y a bien longtemps maintenant dans le handicap. Il a été éducateur, responsable pédagogique dans le champ du handicap. Et il a dirigé une institution également pour des adolescents, des jeunes adultes, jusque dans les années 90. Il est devenu formateur, coordonnateur de projets européens. Et c'est son activité actuelle. On le connaît bien dans notre milieu, puisqu'il coordonne en même temps le réseau en déficience auditive IPEN et le réseau en déficience visuelle Enviter. Et plus récemment, SoundSage. Dernier invité, il s'agit de Peter Verstraten. Alors Peter est... psychologue de formation, il est dans la déficience visuelle depuis très longtemps aussi, 1988, coordonnateur de recherche depuis le début des années 2000 pour le compte de l'institution Visio, qu'on vous présentera très rapidement. Il faut s'imaginer que Visio, c'est un ensemble de 40 sites sur tout le territoire des Pays-Bas qui s'occupe d'à peu près 21 000 personnes. Chaque année. Voilà, donc c'est une grosse institution. Et donc, Peter est chef du département Knowledge, Expertise et Innovation. Donc, il faut s'imaginer que dans cette institution, il y a un département Connaissance, Expertise, Innovation. Voilà, c'est quand même pas fréquent, mais justement, c'est le but de le faire venir aussi, c'est de pouvoir partager cette expérience autour du management de la connaissance. Voilà pour mes invités, donc je les remercie vivement d'être ici. Et puis pour faire une traduction simultanée, Christine Clémenceau, que tout le monde connaît, qui est enseignante spécialisée à Bordeaux, et donc qui j'ai découvert qu'elle était parfaitement bilingue. Heureusement pour moi.
Pas trop de pression.
Alors voilà, donc vous imaginez bien, c'est la première fois qu'on fait ce genre de choses. Alors vous voudrez bien être indulgent si de temps en temps on pédale dans la choucroute. Et la choucroute ici, c'est très important. Alors, on a entendu tout à l'heure, c'est la crise. Oui, c'est pour ramener un peu l'ambiance. C'est un mot qu'on entend quand même très souvent, tout le temps, même pour ainsi dire. Tout nous amène à dire que la crise des finances publiques est présente, elle impacte aujourd'hui notre secteur, et les textes récents ont réorganisé nos activités, ou en tout cas tentent de réorganiser nos activités pour organiser un meilleur maillage territorial. Je ne vous apprends rien, mais quand même, une fois de plus, il y a un mot qu'on utilise beaucoup dans notre petit jargon, c'est le mot injonction paradoxale, je ne sais pas si vous avez remarqué. Aujourd'hui, on est encore dans une injonction paradoxale qui consiste d'un côté à nous demander des restrictions budgétaires, pour être très clair, ou en tout cas une modération de nos ardeurs budgétaires, et d'étendre nos activités à des zones géographiques, des populations que nous n'accompagnions pas jusqu'à maintenant. Il faut y voir bien sûr là, le processus de désinstitutionnalisation, qui est aussi difficile à dire en anglais, j'ai remarqué hier, qui nous occupe en ce moment. Alors, en même temps, on a à gérer sur le long terme les compétences, le maintien de nos compétences, le maintien les acquisitions de compétences avec les populations que nous avons à accompagner. Soulignons que nous demandons de plus en plus des efforts de productivité, il faut dire le mot, et des modifications de pratiques professionnelles, injonction paradoxale de plus. Nous sommes confrontés du coup à nos propres ressources humaines aujourd'hui qui font valoir leur statut, leurs droits, le maintien de ces droits face à des nouvelles orientations que nous tentons de mettre en œuvre. Ce sont des résistances qui sont d'ailleurs plus souvent passives qu'actives. C'est par exemple renoncer à changer de poste, renoncer à partir en formation. C'est des choses que l'on entend et que l'on voit très souvent dans nos institutions. Dernier phénomène auquel on est confronté, pour couronner le tout, pour rendre les choses encore plus évidentes, c'est une vague de départ à la retraite. Je pense que tout le monde est confronté à ça. Le CRDV que je dirige, à Clermont-Ferrand, va voir dans les 5 années qui viennent 23 départs à la retraite sur une centaine de professionnels. Un quart de l'effectif va donc partir. Avec eux, c'est des compétences qui s'en vont, des savoir-faire, des savoir-être. Et on doit avoir à l'esprit que à chaque fois que quelqu'un part, c'est un petit bout de l'institution qui s'en va et qu'il y a un autre petit bout de l'institution à reconstruire derrière. De fait, aujourd'hui, on a accumulé énormément de connaissances. Vous, les professionnels, vous avez accumulé énormément de connaissances. Comment vous les transmettez? Comment vous assurez, en tout cas, que pour les jeunes générations qui arrivent sur le marché du travail, dans nos établissements et services, cette compétence est bien transmise? Voilà. Toutes ces questions, nos collègues ici présents, ils sont confrontés, ou ils ont été confrontés, et on va essayer, au travers de leurs expériences, de vous apporter des petits éléments de réponse. Vous allez voir, c'est des petites choses qui viendront, je pense, vous titiller vos réflexions. On va commencer par Nicolas, donc, qui va rejoindre le pupitre. Je la laisse aux soins de Christine. Et qui va nous parler du contexte écossais, qui n'est pas si éloigné en fait de ce qu'on a connu ces dernières années dans notre secteur, à savoir la régionalisation de l'allocation des ressources et les impacts de cette régionalisation. Où est-ce que Pierre ? Ah mais si, c'est bon. Pardon.
Oui. Hello. In times of change, we need to review and evolve our services so that they are fit for the future. Fife Society for the Blind was established in 1865.
En ces temps de changement, nous avons besoin de réviser et de faire évoluer nos services afin d'être en adéquation avec les besoins futurs. Même si Fife Society for the Blind existe depuis 1865, il peut nous arriver d'être accablés, déboussolés dans nos pratiques.
And yet we can still be overwhelmed. The picture shows a surfer who has used the power of the wave to get on top and ride the surf.
L'image nous L'image nous montre un surfeur qui utilise la force de la vague pour se hisser au sommet et surfer.
The changes and challenges we face are the same. Politically, there is less money to spend, our health and social care services are becoming overwhelmed by a growing number of new treatments and expensive drugs.
Les changements et les enjeux sont les mêmes. Au niveau politique, il y a des restrictions budgétaires, nos services de soins et de santé sont surchargés par un nombre grandissant de patients, de nouveaux traitements et de médicaments coûteux.
Economically, we need to prove that we can deliver value for money and ensure that those with funds are willing to pay for what we have to offer. That may be government funding, publicly released voluntary funds or the individual themselves.
Au niveau économique, nous avons à montrer et à prouver aussi que nous sommes capables d'offrir un service de qualité auprès des financeurs comme l'État, les associations ou les particuliers.
Socially, we are faced with an ageing population with increases in age-related sight loss and often combined with age-related hearing loss.
Au niveau social, nous sommes confrontés aussi à une population qui vieillit avec des pathologies visuelles en augmentation liées à l'âge.
Technological advances have led to new treatments, early diagnosis and better optical devices to support low vision.
Les avancées techniques ont permis d'apporter des nouveaux traitements, des diagnostics précoces et du matériel optique en basse vision toujours plus efficace.
In the UK and in our own services in Scotland, we have faced great uncertainty. There is a shortage of specialist rehabilitation workers. Services are subject to funding cuts.
Dans notre établissement en Écosse, nous devons faire aussi face à un manque de professionnels dans le secteur de la réadaptation.
And we all disagree about what the priority should be and what our clients want.
Les services doivent faire face à des restrictions de budget. Nous ne sommes pas tous d'accord sur les priorités et les choix des usagers.
All this in a climate where different professional groups, ophthalmologists, optometrists, orthoptists and rehabilitation specialists are all fighting for diminishing resources.
En même temps, des groupes de professionnels comme les ophtalmos, les orthoptistes, les spécialistes de réadaptation doivent se battre pour conserver leur budget.
Through the UK Vision 2020 group, we brought together all the different professional bodies along with organisations of and for the blind and partially sighted people.
C'est plutôt en diagonale, ça aurait été davantage en horizontal. En fait, le titre c'était Single Voice, a Great Strategy. À travers le groupe de travail UK Vision 2020, nous avons réussi à réunir tous les corps de métiers et associations liées à la déficience visuelle.
After much debate, we have agreed on a single UK Vision strategy that we all work to deliver. We have a single voice when we go to government and we link our strategies together.
Après de nombreux débats, nous sommes arrivés à nous entendre sur une stratégie commune dans le pays et nous travaillons ensemble pour coordonner nos stratégies et porter une voix unique lors de négociations avec le gouvernement.
Being aware that we are working with an aging population where very often sight loss was accompanied by hearing loss, we established in 2000 the first sensory impairment centre, bringing together organisations meeting both needs.
Nous nous sommes rendus compte que, assez vite que la population avec laquelle nous travaillons non seulement avançait en âge, mais était aussi confrontée à une double perte, celle de la vision et de l'audition.
This has been taken up by our Scottish Government and is seen as more cost-effective in terms of service delivery.
C'est pourquoi nous avons établi en 2000 la première plateforme de réadaptation en déficience sensorielle couvrant les deux champs, basse vision et basse audition. Ce projet a été accueilli favorablement par le gouvernement écossais, qui voit ainsi un bon investissement en termes d'efficacité et de rentabilité.
95% of our clients have useful residual vision, and most people come to us in older age wanting help to see better.
95% de notre clientèle utilise efficacement le reste visuel, et la majorité de nos clients âgés viennent chercher de l'aide pour y voir mieux.
We are refocusing our services to provide vision rehabilitation outcomes.
Nous sommes donc en train de redéfinir et de replacer nos services au cœur même de la rééducation.
Ensuring that people can maximise on the use of residual vision with reading strategies and not just using optically poor handheld magnifiers but custom-made hands-free solutions.
Nous assurons aussi que les gens utilisent au maximum leur reste visuel à l'aide de stratégies de lecture, de repérage, plutôt que d'utiliser seulement du matériel adapté qui n'est pas toujours adapté, comme les loupes, par exemple.
Traditionally, our service has been domiciliary, with staff spending much of their day travelling between clients. This was not a good use of time. Clients didn't benefit from peer support and professional staff with different skills and inputs couldn't coordinate easily.
Traditionnellement, nos services allaient au domicile des usagers, avec des professionnels qui passaient beaucoup de temps dans les trajets, et ce n'était pas une bonne façon de gérer le temps. Et les usagers ne bénéficiaient pas non plus d'un service optimal. De plus, les professionnels venant de champs disciplinaires différents avaient des difficultés à se coordonner.
By moving to center-based services, we can provide a more economic solution and improve interdisciplinary working at the same time.
En ramenant sur la plateforme tous les services, nous pouvons maintenant proposer une solution plus économique et améliorer le travail en interdisciplinarité dans un même temps et un même lieu.
We need to embrace the opportunity that turbulent times provide. With changing demographics, the opportunity to work in partnership with others will mean that we can better respond to needs.
Nous devons saisir les occasions qui s'offrent à nous dans ce contexte difficile. Avec l'évolution démographique, l'opportunité de travailler en partenariat nous donnera ainsi la possibilité de répondre au plus près des besoins des usagers.
The opportunity is there for us all to ride the surf.
L'occasion est venue pour nous de surfer sur la vague.
The alternative, if we don't embrace change, is that we will go under, we will drown.
Par ailleurs, si nous n'évoluons pas avec le changement, alors la vague nous submergera et nous coulerons.
Thank you for the opportunity to share with you something of a revolution, and please do contact us if you require any further information.
Merci d'avoir partagé avec nous ces quelques commentaires et n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.
Merci Nicolas. Je laisse John rejoindre Christine. On a vu qu'en Écosse, comme dans d'autres pays européens, la question de la transformation des institutions en plateforme, elle avait été déjà bien abordée et c'est concluant. Mais avant d'arriver à ces questions-là, avec John qui chuchote, nous devons nous poser la question des populations que nous accompagnons. Et John est un observateur attentif de ces populations que nous accompagnons à travers toute l'Europe. Non, mais t'inquiète pas, il y a sûrement. Non, mais rien, tu n'as rien fait, tout va bien. Pierre est là ?
Qu'est-ce que j'ai fait ?
Non, parce qu'il n'y a que Pierre Machmi qui connaît cet ordinateur.
Ouais.
Je commence. Oui, t'inquiète pas, tu vas improviser. Voilà, alors, il est un observateur attentif de ces nouvelles populations et moi, je voudrais qu'il nous explique quelles sont-elles, ces nouvelles populations.
Non, il vient. Merci, Pierre. Oui, trop de Pierre.
Il faut dire que ta machine est vraiment étrange, hein, Pierre.
Non. C'est la mienne. Hein, elle marche bien.
Alors on va y arriver.
C'est quoi, c'est celui-là qu'il faut remettre ?
Peut-être que les pelleteuses vont arriver dans le palais des congrès avant qu'on ait fini. Faut qu'on se dépêche.
John, what is yours ?
Mine is anglais. Anglais, c'est ça.
Ah, ça.
Et le troisième.
Le troisième. Donc John a observé. En gros, il a observé trois catégories de populations qui...
Non, rien.
Il n'y a rien qui vient.
Nous avons un bon film. Ok, ça l'a fait.
Ça. Non, c'est pas ça. C'est
peut-être un ordre de chien.
Okay.
Non, c'est pas ça.
C'est ce qu'il m'a dit.
Non, c'est pas ça. C'est ça.
Anglais.
Celui-là.
Il a dit que c'était anglais. Okay.
Voilà. Can you hear me? Oui. Tu peux m'entendre? Vous pouvez m'entendre? Ah oui. Bonjour. C'est comme le pays des Galles. Beaucoup de pluie, je pense. Bonjour. J'essaierai en français.
Quatrième slide.
Et veuillez excuser mes fautes, s'il vous plaît. Mais je vais essayer en français. Et Christine, je suis bien sûr que Christine m'aidera s'il nous faut.
Faut remonter là, deux diapos.
Oui, c'est
quatrième.
Ah okay.
Voilà.
Je veux prendre.
Non, celle d'avant. Voilà, merci.
Merci. Je veux prendre trois points clés dans les vies des personnes handicapées. Et peut-être des personnes. Totalement, mais surtout pour les personnes handicapées, que j'ai trouvé pendant mes voyages, pendant ma profession d'éducation et de formation de personnes en Europe, qui sont les points clés et où j'ai vu beaucoup de développement en dépit des finances, parce que ce sont les points de développement selon les besoins des personnes et selon les besoins de chaque pays. Et ce n'est pas toujours les grands services, ce sont les petits points aussi et les petits exemples. Ainsi, pour moi, le premier point, c'est après la naissance. Et c'est le programme national d'éducation de la naissance, vraiment de la naissance, jusqu'à 3 ans, et puis de 3 ans jusqu'à 5 ou 6 ans, selon le pays. Mais dans mon petit pays, le Pays de Galles, nous jouons bien, bien le rugby. Dans mon petit pays, dans mon petit village, nous avons 1200 personnes dans ma petite ville. Nous avons un maire, c'est une petite ville. Mais nous avons une école qui donne l'éducation pour tous les enfants selon un programme national de naissance jusqu'à 16 ans, 5 ans. Et aussi, ce qui inclut sont les enfants avec les handicaps. Ils sont inclus. Ainsi, pour ça, et je puis seulement parler très brièvement de ça, mais c'est un programme qui est validé par le département d'éducation. Et je dois emphasiser que le programme d'éducation dans le Pays de Galles est différent de l'Écosse, c'est différent de l'anglais. C'est d'évoluer à chaque pays. Mais nous avons ce programme qui inclut très fort les parents. Les parents sont, avec les professeurs des jeunes enfants, sont très, très importants. Ainsi, pour moi, c'est le rôle des parents qui est très, très important et qui a développé beaucoup. Et un deuxième exemple de ça, dans notre pays, que j'ai pris par exemple à la Biélorussie, à d'autres pays, c'est le programme de Portage, qui est pour stimuler les enfants handicapés, et où les parents eux-mêmes trouvent leur rôle comme les éducateurs. Pour moi, c'est un grand développement, et pour nous, c'est très très important. Et c'est un programme national qui continue et qui est validé par le département d'éducation. Et c'est continu. Ainsi, pour moi, c'est un point clé. Moi, je suis allé à l'école à 5 ans, ainsi peut-être c'est une contribution à mes fautes. Mais de nos jours, ce sont les très très jeunes, et ce n'est pas une force économique, c'est une force développementale et selon les besoins des enfants. Et il y a les programmes, nous avons les programmes pour les parents qui sont les partenaires, qui sont les éducateurs. Et aussi, j'ai dit là, role of siblings, c'est la famille, les frères et les sœurs. Et j'ai fait beaucoup de formations de ça. Les frères, les sœurs, la famille entière, c'est très, très important. C'est pour moi, on peut le trouver de plus en plus en Europe, surtout dans mon pays, parce que je connais ça meilleur, mais c'est un programme qui est très, très important. C'est un point clé. Et c'est un point clé que je pense qui développera dans l'avenir. Et le deuxième, oui, s'il vous plaît. Bien, merveilleux, quel service. Et le deuxième, c'est pour la vie après l'école, la vie d'indépendance. Peut-être une vie de travaux, peut-être non. Nous avons bien récemment, nous avons fait un projet pour les personnes avec handicap visuel, avec les polyhandicapés, 14 organisations de 11 pays. Et si vous allez à ce site internet, www.jobsmdvi.org, et c'est un programme que j'ai évalué, vous y verrez de bons exemples par toute l'Europe de travaux ou d'activités de valeur. C'est la phrase la plus importante. C'est la phrase la plus importante. Les activités de valeur pour les personnes bien, très bien handicapées. Et aussi pour cette période, pas encore, et aussi un point, les professeurs eux-mêmes dans les écoles de l'âge de 12 ou 14 pour les personnes partout, mais surtout pour les personnes handicapées, il faut changer l'approche, changer le programme national pour l'éducation des personnes de 12 et 14 à 16 pour leur avenir. Ça développe. ça développe dans beaucoup de pays. Pour nous, c'est critique que c'est une période de transition, un pas pour les personnes handicapées, pour tous, mais surtout pour les personnes handicapées. Et puis aussi, comme Arnaud a dit, je suis le coordinateur d'un programme de réseau SenseAge, www.senseage.eu, qui devient le point de référence pour les personnes âgées. Il y a une vidéo, là, en France, avec les sous-titres en français, et aussi en 7 langues, en français, il y a cela, on peut le trouver. C'est une vidéo de ce sujet. Et c'est très important parce que plus de personnes, les personnes vivent beaucoup. Et aussi pour nous, c'est une période, la continuité d'éducation et de développement. Le meilleur exemple que je connais, c'est en Islande, la petite île qui avait une crise économique énorme. Mais avant cette crise, et ça continue par la crise, ça continue encore une fois, les personnes vivent jusqu'à 90, 100 ans, c'est l'âge le plus grand des personnes des personnes. Je dis que c'est à cause de l'huile des baleines. Mais oui, c'est partout. Et le centre de ressources pour les aveugles à Reykjavik a 67% des personnes, des clients, ont 67 ans de handage ou plus. Et il n'y a pas beaucoup de maisons de retraite. Les personnes vivent encore, et je les ai rencontrés, dans leur maison. Et il y a les services qui les soutiennent dans leur maison. Les services de chaque jour, les services spécialisés, et aussi, comme nous avons eu l'exemple de Nicolas, le service pour les sourds et le service pour les aveugles se joignent. La décision politique a été prise et les services se joignent. Et pour moi, c'est un développement de l'avenir pour tous. Pour tous. C'est très, très important. N'oubliez pas les développements petits. Les développements petits que j'ai vus, par exemple, en Serbie, il y a 2 semaines. Il y a les services pour l'emploi des personnes handicapées, que j'ai vus en Roumanie, qui sont les services petits, locaux, dans les villages, dans les villes. Les exemples, pas les grandes industries, pas les grands employeurs, ce sont les services locaux. Et ce sont très, très importants pour les aider. Et ce sont, et je les vois par tous les pays de l'Europe, que ce sont les services, les petits, les services locaux qui sont plus importants que les grands services et les grandes idées. Ce sont les idées et les services locaux. Ainsi, pour la dernière, merci. La phrase « Nothing about me without me », rien de moi sans moi. Rien de moi sans moi. C'est la phrase pour les personnes handicapées. C'est au centre de toutes les idées, de tous les développements. Veuillez, n'oubliez pas ça. Pour prendre les décisions ensemble, ça doit être une réalité. C'est un partenariat avec les parents, les personnes locales, les services, mais au centre de ça, il y a le client lui-même. Et les partenariats égaux, et polyhandicapés, polyfinancés, polydisciplinaires, on peut voir tout. On a entendu beaucoup de ça. Mais partout, rien de moi sans moi. Veuillez, n'oubliez pas ça. Ce sont des exemples, je pourrais parler sans problème, même en français, pour toute la journée, de ce que j'ai vu. J'ai vu beaucoup d'exemples. Et partout, c'est toujours les personnes avec les pieds à terre. Ce sont les personnes indépendantes et importantes. Ce sont les personnes que l'on doit soutenir et aider pour tout ce que nous voulons faire. Merci bien.
Alors, petite question à Peter On va peut-être enchaîner, remarque, hein, parce qu'on est, on est un peu pressé. Ouais. Alors, Peter va nous expliquer pourquoi et comment, au sein d'une vaste organisation qui est Visio, la problématique du management de la connaissance s'est imposée. On aurait pu penser qu'une simple direction, je sais pas, recherche et développement aurait suffi. Eh bien non, ils ont déployé un ensemble de dispositifs qui concourent à ce qu'on appelle le cercle vertueux de la connaissance. Voilà, j'aimerais bien que Peter, avec l'aide de Pierre à nouveau, nous présente ce point-là. Quelques informations sur Visio peut-être pour commencer, Peter.
Okay. I've been asked to stand over here so Christine can hit me when I speak too long or too fast. Thank you. She does translate. Oh, you do translate, okay. It's this one. And I've been asked to show you only 4 slides, so I will.
On a choisi de vous présenter seulement 4 diapos parce qu'on est un petit peu serré par le temps.
Well, anyway, I'm happy to be here and to show you as an example that maybe can be used by other organizations or networks how we go about with managing knowledge in a large organization.
Voilà. Donc je suis très heureux d'être ici et donc je suis très heureux de vous présenter un petit peu la façon dont on travaille pour partager notre connaissance.
The main tasks of my department within Royal Dutch Visio is to develop, to transfer and to secure all knowledge that we have or want to develop in the field of visual impairment.
Ma principale tâche à Visio est donc de partager, de transférer et de sauvegarder le transfert des connaissances et de pouvoir justement l'adapter à tous les champs.
And for that, we make use of a so-called knowledge circle.
Et pour cela, nous utilisons donc le cercle de la connaissance.
Can we go to the next slide?
This one.
That one. Okay, thank you. And I'll give you an example of how we make use of it. There are different steps that you can see in this knowledge circle, and I'll start on the left side.
Okay, il y a plusieurs niveaux comme vous voyez dans ce cercle, et on va partir de la gauche.
Where it says to evaluate.
Par exemple, en partant d'évaluer.
Based on a need, usually by evaluation, a project proposal is developed.
Basé sur un besoin, un projet est évalué.
And is given priority or not by our management.
Et donc notre direction donne la priorité ou pas.
If necessary, we try to get additional funding and the project is carried out.
Alors bien sûr, si nécessaire, on demande des fonds et donc le projet est mené à son terme.
If the results are satisfactory, we proceed by fine-tuning or adapting these results for practical application and very often develop a training course as part of implementation.
Donc si ce projet est mené à bien, nous allons développer un programme et nous allons voir comment il s'applique sur le terrain.
Actual implementation is a responsibility of local management, of course.
Donc, de nos jours, toujours la direction et enfin le management est donc dans les mains du management de l'autorité locale, oui, du département.
And then again, evaluation of the results of this process in daily practice may lead to new needs, to new requests, to new projects, etc.
Et donc, en développant ce programme, on verra voir qu'il y aura des nouveaux besoins, des nouvelles demandes de toutes parts.
Okay. Next slide. Oh. That's a lot of information, but it shows a few examples of what this means in practice.
Alors ça, il y a beaucoup d'informations, mais ça nous donne un exemple de ce qui se passe dans la pratique.
And you may see that the left side of the knowledge circle is more about knowledge development.
Donc il y a deux parties. Hein. La première partie, c'est le développement de la connaissance, et dans l'autre partie, donc le transfert de la connaissance.
And on the right side, it's more about knowledge transfer. Mm-hmm. You're ready for it. Mm-hmm. You're fast. On the left side, it shows a few things we do, like we make our own analysis of the data that we collect. from our clients.
Okay, donc ce que nous faisons d'original, c'est que nous faisons nos propres informations. Nous avons notre propre database.
I will not read all examples, but there it says we have research projects, development projects, innovation projects.
Il y a des projets, donc on développe des projets innovants, des projets, des programmes.
And on the right side, it shows that we organize meetings for sharing expertise and knowledge.
Voilà, et sur la droite, vous pouvez voir qu'en fait, pour transférer et pour partager cette connaissance, on la partage à travers des meetings ou des conférences internationales.
We organize training courses and are involved in conferences, sometimes international conferences.
Donc nos modules de formation après et notre connaissance donc est partagée dans les conférences internationales, comme je disais.
And I have within our department 4 teams who do all this work.
Et dans notre département, il y aura 4 équipes qui s'occuperont de ce.
The first one is about research.
Donc la première est basée sur travailler sur la recherche.
Second is development and innovation.
La deuxième travaille sur le développement et l'innovation.
Third is that within our organization we have our own Visio Academy.
La troisième, nous avons à l'intérieur de notre établissement une académie, une sorte de formation.
Yeah. And fourth is an international department.
Et donc la quatrième est un département international.
This is the last slide to show that all this needs to be embedded in what we call a knowledge and learning infrastructure.
Donc vous voyez que tout est ancré dans la connaissance et dans la structure de l'apprentissage.
And these are a few parts of that structure.
Et donc il y a des parties de cette structure.
Like on the right side, it says ICF. That's the classification and the language that we use within our work.
Dans la partie droite, vous voyez ICF, donc c'est une classification internationale que nous utilisons.
It shows that we cooperate with universities on a national and international level.
Ce qui veut dire que nous collaborons avec des universités au niveau national et international.
That we created what we call an expertise square where all knowledge that is available should be accessible for our professionals.
Et donc nous avons créé un groupe d'expertise qui est disponible pour nos professionnels, mais aussi pour les autres. Okay.
And at this moment, we are developing a digital method book. We try to collect all available methods that we use in our work with visually impaired people.
Et donc, en ce moment, nous essayons de collecter un petit peu toutes les méthodes que nous avons utilisées auparavant, et nous essayons de les rassembler.
I could speak about this all day, but I will not, so I'll finish now because of the time.
Je pourrais parler très longuement de physio, mais je pense que nous sommes un petit peu obligés par le temps de résumer.
Merci, Peter.
Oui, merci, Peter. C'était une brève intervention, mais je pense que, enfin, j'espère que vous avez saisi l'importance, en tout cas, de la façon dont Visio s'est emparé de cette transmission de la connaissance au sein d'un grand groupe, hein, parce que c'est un grand groupe, hein, faut imaginer que ça ressemble un peu à un grand groupe commercial ou un grand groupe associatif, hein, une quarantaine d'établissements. Et c'est vrai qu'ils ont cette chance d'être dans un seul et même champ, celui de la déficience visuelle, et du coup, c'est vraiment l'opportunité là de manager la connaissance de façon globale. Avant de terminer, on va peut-être laisser la parole à la salle. Si vous avez des questions, j'espère que vous en avez, ils sont là pour ça. Vous levez le doigt bien haut. Vous n'osez pas. Il faut oser. Moi, j'ai une question pour compléter ce qu'on vient de se dire. Est-ce que vous avez observé des évolutions dans la manière dont évoluent les professionnels dans le champ de la rééducation sensorielle? Tu peux.
Have you seen any changes in your institution regarding professionals and jobs?
Thank you.
Well, I'm working in this field, as was said in the introduction, for about 25 years now. And when I look back at the development in rehabilitation services, the beginning, there was much emphasis on emotional adaptation.
Ça fait depuis 25 ans que nous travaillons, et au début, nous avons vraiment mis le focus sur le côté émotionnel, le côté, l'aspect émotion, psychologie.
And so an emphasis on social work.
Plutôt donc le travail social.
After that, there was more emphasis on the practical rehabilitation part.
Donc ensuite, ça s'est focalisé plutôt sur le côté pratique, le côté réadaptation.
And the work of the occupational therapists.
Voilà, comme des ergothérapeutes, etc.
After that, we've seen the development of visual assessment.
Après, ça a été plutôt le côté des bilans visuels.
So the assessment of visual functions.
Voilà, plus fonctionnel.
And I think a few years ago, there was more emphasis again on people with acquired brain injury and on CVI.
Ensuite, ça a été davantage des gens qui étaient plutôt touchés avec. On s'est intéressé surtout au cerveau avec les neurosciences.
And right now, of course, because of all the new technical innovation, a lot of interest goes to the use of iPads, iPhones, and all that sort of equipment.
Et donc maintenant, on développe beaucoup les matériaux adaptés avec de nouvelles technologies.
That also explains why we've seen, in a larger perspective, another change.
Et donc, on a vu beaucoup depuis 25 ans des énormes changements.
Because in the visual field, it started with blind children.
Mm-hmm. On a commencé avec des enfants qui étaient aveugles.
And then there was more interest also in adults with visual problems.
Et donc ensuite, on a accueilli des adultes avec de la déficience visuelle, pas seulement aveugles, mais aussi déficients visuels.
And also due to the technical possibilities, we discovered that people were not just blind, but there were also many partially sighted people.
Adrien, people were
not just totally blind, but also partially sighted people.
Okay, oui, c'est ce que je disais. Donc on a découvert avec les avancées techniques qu'on pouvait bien sûr améliorer les restes visuels, et donc on a accompagné aussi des gens qui étaient donc déficients visuels.
In the last few decades, we discovered all the people getting visually impaired.
Et donc ensuite, on a aussi accompagné des gens qui avaient la
visual impairment.
Ouais. And hearing impairment.
Also okay. Hearing impairment, because
pas plus fort. Parce que... Okay. Et donc on a accompagné ensuite des gens qui avaient le double handicap, c'est-à-dire la perte de l'audition et la perte de la vision.
The changes that we've seen are that there's more collaborative working, so professionals don't work in isolation anymore.
Okay, on a vu donc en ce qui concerne notre pays, au niveau des professionnels, les professionnels étaient beaucoup éclatés sur le territoire.
And a person, when they're referred, will see professionals all together, so it won't be a continuous referral, it'll be one referral with professionals working coinciding.
Mm-hmm. Et donc les gens, quand ils voulaient aller voir des professionnels, c'était difficile pour eux parce qu'ils ne savaient pas trop où aller, et puis les professionnels travaillaient plutôt côte à côte qu'ensemble.
And ultimately it results in a one-stop shop.
Et donc on a voulu une sorte de recréer de stop shop, c'est-à-dire de magasin, un grand magasin en fait, où on pouvait s'arrêter, c'est le stop shop, comme le bus stop.
Et un point pour finir, mais aussi le rôle et l'éducation, la formation des éducateurs a changé bien chez nous. Parce que, par exemple, un point pour l'éducation des aveugles, maintenant c'est inclus dans la formation normale des personnes qui veulent devenir les professeurs, les éducateurs. Parce que les enfants sont dans les classes normales et il y a là les personnes qui peuvent les aider, les soutenir dans les classes normales. Ainsi, les éducateurs doivent s'accoutumer à cette initiative et aussi doivent changer et adapter leurs leçons selon les besoins de tous, de tous les élèves, ceux avec les handicaps, ceux sans les handicaps. Et ça change beaucoup. Nous avons trouvé le rôle et l'approche des éducateurs eux-mêmes.
Bien, merci beaucoup. Est-ce que, avant de terminer, il y aurait une question dans la salle ? N'hésitez pas, c'est les trois dernières minutes pour eux avant de rejoindre le taxi, puis la gare pour John et Nicolas qui doivent s'envoler aujourd'hui. Donc, est-ce que vous avez des questions ? Non ? Bon, je te passe la parole, Maurice ? Oui, surtout. Un grand merci à vous d'être venu jusqu'à nous.
Il y a quelques mots simplement pour faire la transition entre ces quatre demi-journées de congrès et l'intervention de clôture de Patrick Vivray. Simplement, d'abord quelques notes d'ambiance telles que je les ai ressenties au cours de ces trois jours. Bon, je crois que ça a été un congrès riche et un congrès riche de sa diversité. De la diversité des métiers qui étaient représentés, qui se sont exprimés, notamment pendant les ateliers, diversité des institutions qui ont participé à ce congrès. Je le redis souvent, mais une des caractéristiques de notre fédération, c'est de rassembler au-delà des statuts juridiques des uns et des autres, puisque nous sommes à la fois des associations, des fondations, des établissements publics locaux, des établissements publics nationaux, sous des statuts juridiques très différents. Deuxième note d'ambiance, la qualité des interventions, que ce soit les interventions sur les échanges de pratiques. J'ai essayé de passer d'atelier en atelier pour essayer de capter quelques informations, quelques préoccupations des uns et des autres. Et je crois que dans tous les ateliers, chacun a pu s'exprimer, poser des questions, partager avec d'autres. Et je crois que c'est tout à fait important, au regard notamment du thème qui était celui de notre congrès, construit autour de l'évolution des métiers. Et si je dois, à titre personnel, retenir quelque chose de l'ensemble des échanges, je le puiserai dans les échanges de ce matin où on a évoqué le développement professionnel continu, et j'insisterai sur le continu. Je crois que s'il y a une chose importante, c'est bien celle-là. La formation n'est jamais un acquis. Il ne faut pas s'imaginer que parce que on a suivi une formation, qu'elle soit initiale ou qu'elle soit en cours d'emploi, les affaires sont terminées et qu'on est tranquille pour 15 ans ou pour 20 ans. Je pense que ça n'est pas le cas, parce que nos établissements évoluent, les personnes que nous prenons en charge évoluent, leurs besoins ne sont plus exactement les mêmes qu'il y a 10, 15, 20 ou 30 ans, et c'est à nous de nous y adapter, et nous ne pourrons le faire que par le caractère continu de notre développement professionnel. Je crois que c'est un message tout à fait fondamental. Au-delà de ces notes d'ambiance, je voudrais relever cinq orientations qui me paraissent importantes pour la Fédération à mettre en œuvre dans les mois et dans l'année qui vient. Première orientation, et là je me réfère à la table ronde qui vient de se terminer, notre ouverture à l'Europe d'une part, à la francophonie d'autre part. Je crois que c'est un chantier sur lequel nous nous sommes investis et sur lequel nous continuerons de nous investir, parce qu'il me paraît fondamental que nous soyons capables d'accueillir des regards différents des nôtres sur nos pratiques. J'entendais hier, dans un des ateliers auxquels j'ai participé, des observations sur le caractère parfois atypique
de la pratique franco-française. Je crois qu'il faut que nous soyons capables de nous interroger. Peut-être que cette atypie est salutaire, peut-être ne l'est-elle pas nécessairement. Je laisse planer le point d'interrogation. Deuxième orientation, renforcer la dynamique interrégionale qui se met en place depuis quelques années au sein de la Fédération en favorisant la participation de tous les acteurs, en développant plus encore la transversalité, en s'appuyant davantage sur notre conseil scientifique pour mener des recherches-actions, notamment en partenariat avec l'université. Ça fait plusieurs années déjà que la Fédération travaille avec l'Université de Paris 13 ou l'Université catholique de l'Ouest, par exemple. Il me semble que c'est une voie prometteuse dans laquelle nous devons continuer de travailler. Nous ne sommes pas les seuls à développer ces partenariats. Une aphoriste qui était notre partenaire pour ce congrès est également engagée dans ce type de réflexion. Troisième orientation, poursuivre et développer le travail avec les fédérations métiers. Je ne les citerai pas tous, mais qu'il s'agisse des orthophonistes, des instructeurs de locomotion, des enseignants ou des éducateurs spécialisés, c'est avec eux que nous devons travailler sur l'évolution des métiers. On ne peut pas réfléchir en chambre ou en vase clos à ces évolutions. Cela doit se faire nécessairement avec tous les partenaires intéressés, les professionnels eux-mêmes et leurs fédérations, leurs organisations professionnelles, les institutions qui sont aussi des employeurs de ces professionnels et les formateurs, quelle que soit leur origine. Quatrième orientation, poursuivre également le lien à tisser avec les agences régionales de santé pour travailler avec elles à la construction de parcours de prise en charge pour les jeunes, les moins jeunes ou les plus jeunes du tout qui sont pris en charge par nos établissements. Je crois que la notion de parcours de prise en charge, parcours de soins, n'est pas seulement une mode, c'est aussi une réalité à laquelle nous sommes confrontés tous les jours et nous mesurons bien les points de rupture, les hiatus qui peuvent exister dans ces parcours de prise en charge et nous devons travailler à les réduire. Cinquième axe enfin, qui est un axe prospectif, nous allons dès les semaines qui viennent reprendre le travail avec Laurent Vachet qui est venu s'exprimer devant nous ces jours-ci sur la réforme de la tarification. Un des intervenants ce matin nous disait qu'il était le nerf de la guerre. La tarification est aussi pour nous le nerf de la guerre et nous ne pouvons pas nous désintéresser des réformes qui se préparent sur ce plan parce que c'est notre capacité à agir demain qui est en cause et je sais que vous y êtes sensible. Je terminerai par quelques remerciements pour tous ceux qui ont permis la tenue et la réussite de ce congrès. Remerciements à la petite équipe de la FISAF qui, autour de Maurice Beccari, a préparé ce congrès, tout particulièrement Daniel et Pierre. Merci à eux parce que sans eux, ce congrès n'aurait pas pu se tenir. Remerciements également à nos collègues et amis des établissements strasbourgeois, l'Institut du Bruckhof et l'association Adèle de Glaubitz qui ont été la cheville ouvrière locale de ce congrès. Un remerciement tout particulier à Christian Ullmann qui, à la tête de son ensemble vocal, nous a offert une soirée particulièrement riche. Et je trouve que son choix a été tout à fait judicieux en choisissant de nous offrir le Stabat Mater. Ça mériterait des commentaires, ça n'est ni le temps ni le lieu, mais la pièce qu'il a choisie, nous faisant passer du XIIIe siècle, puisque le texte de cet hymne a été composé au XIIIe siècle, au XIXe avec Dvorak, nous a permis d'appréhender, selon des formes différentes, des choses qui ne nous sont pas étrangères. Et je vous livrerai simplement cette réflexion qui nous a été fournie dans le quatrième mouvement du Stabat Mater de Dvorak par le dialogue entre le chœur et la basse, qui nous disait à un moment donné « Fac ut ardeat cor meum », que notre cœur soit ardent au service de la cause humaine à laquelle Patrick Vivray va nous ouvrir maintenant. Et je le remercie par avance de son intervention. Merci à vous tous.
Moment, on peut le...
Voilà, c'est, vous avez juste appuyé sur la flèche ici.
D'accord, mais pour supprimer pour le moment, pour que je le mette au moment où... Bon, c'est pas grave. Donc, je passerai les diapos en moment utile, mais comme on a du mal à les supprimer à ce stade-là, c'est pas grave. D'abord, merci de vous accueillir, de m'accueillir. Effectivement, on m'a demandé d'intervenir sur le cadre plus général que je défends dans le livre « La cause humaine » qui vient d'être cité et dont le sous-titre est « Du bon usage de la fin d'un monde ». Mais finalement, en regardant le titre apparemment très pointu de votre congrès, « Quel métier, modèle, formation pour le secteur de la déficience sensorielle et des troubles du langage ?», je me suis dit, mais au fond, est-ce cette question que vous vous posez spécifiquement dans votre secteur n'est pas la grande question à laquelle nous sommes confrontés? Car les effets d'une économie dominante ou la part d'économie hors sol, la part d'économie spéculative produit des effets massifs de désensibilisation, de coupure tant dans le rapport à la nature que dans le rapport à autrui, que dans le rapport à soi-même. Donc la question de la déficience sensorielle, c'est une question qui est absolument centrale pour la période que nous sommes en train de vivre, et l'organisation de formes alternatives au modèle dominant qui produit cette insensibilisation est nécessaire. Et l'autre élément, c'est que la forme économique dominante, elle est au cœur du trouble du langage, puisqu'elle pratique, comme le disait Orwell dans son roman 1984, un détournement massif d'un certain nombre de termes clés et forts du langage courant, tels que valeur, tels que bénéfice, tels que bénévolat, tels que économie même. Et ces troubles du langage sont à la fois du point de vue du diagnostic, mais aussi du point de vue de la perspective alternative, un point central pour aller poser précisément la question des métiers, mais en entendant le mot métier dans son sens fort et étymologique tel qu'il a été créé par le compagnonnage au XIIe siècle, à savoir la contraction de deux mots latins, le ministère et le mystère. Donc le métier, ce sont des ministères mystérieux. C'est quelque chose de beaucoup plus fort que la notion de job, la notion d'emploi. C'est véritablement un service mystérieux, parce que si ce sont des métiers manuel de l'ordre de la transformation de la matière, ça renvoie au mystère du rapport à la nature. Et si ce sont des métiers relationnels, ça renvoie au mystère du rapport à autrui. Et donc, au fond, je me suis dit, cette question de la déficience sensorielle, cette question des troubles du langage et cette question du renouveau des métiers qui sont à même de reproduire de la sensibilisation et de réinventer un rapport au langage qui soit cohérent avec des perspectives de développement humain soutenable, c'est-à-dire qui rétablisse ce lien avec la nature, avec autrui et avec soi-même, on peut effectivement défendre l'hypothèse que c'est le cœur de nos problèmes actuels. Alors, pour montrer en quoi la situation actuelle du modèle économique dominant produit des effets massifs de coupure, d'insensibilisation, de formes d'économie qui sont découplées du réel, je vais simplement justement vous montrer trois diapositives rapidement qui sont des outils qu'on utilise lorsque on a une approche avec de nouveaux indicateurs de richesse qui sont différents des indicateurs macroéconomiques classiques qui sont utilisés. J'avais été amené, il y a une dizaine d'années, à faire pour le gouvernement un rapport sur une autre approche de la richesse qui ensuite a permis la commission Stiglitz, a permis un certain nombre de rencontres internationales sur de nouveaux indicateurs. Et donc, quand on regarde différemment les problèmes économiques, sociaux et écologiques avec d'autres lunettes que les indicateurs macroéconomiques dominants, on va voir les conséquences de cette coupure, tant de la coupure dans le rapport à la nature, l'enjeu écologique, que la coupure dans le rapport à autrui, la question sociale, mais aussi la coupure par rapport à l'économie réelle elle-même. Cette première diapositive, elle montre la coupure écologique à travers un indicateur que l'on connaît bien depuis 10 ans, depuis le sommet de Johannesburg, et qui met en évidence, à travers l'empreinte écologique, la surface de terre que mobilise un mode de production, de consommation, mais aussi, peut-on dire, de déjection, puisqu'il y a quantité de déchets dans nos modes de production et de consommation, et que ces déchets vont mobiliser une surface de terre au sens large, puisque, par exemple, on a un immense continent de déchets qui se trimballe dans les océans. Et cette empreinte écologique, elle permet immédiatement de voir que le modèle économique dominant, qui est celui de l'Amérique du Nord, est tellement au-dessus de la moyenne générale de l'empreinte écologique mondiale que, pour reprendre l'expression consacrée, si tous les habitants de la Terre se mettent à adopter ce même mode de production, de consommation et de déjection, il faudrait plusieurs planètes. En l'occurrence, quand vous regardez le graphique, pour l'Amérique du Nord, c'est 8 planètes. Pour l'Europe occidentale, c'est entre 3 et 5 planètes. Et donc, on comprend bien que ce modèle est insoutenable à partir du moment où des pays émergents tels que la Chine, l'Inde, le Brésil se mettent à adopter les mêmes modes de production, de consommation et de déjection. Et nous sommes donc là en présence d'une coupure fondamentale, d'une insensibilité fondamentale qui est celle de notre rapport nourricier à la nature, à nos écosystèmes. Et comme le disaient les manifestants du sommet de Copenhague, malheureusement, nous n'avons pas de planète B à notre disposition. Et donc, retenons, du point de vue du diagnostic, que la question de l'insensibilité en tant que rupture de notre rapport à la nature est une question cruciale et que, par conséquent, du point de vue des formes alternatives, la question du rétablissement de ce lien à la nature et à nos écosystèmes va être un élément tout à fait central. Deuxième exemple de coupure et d'insensibilisation, c'est la coupure sociale. Tout ce qui fait qu'il peut y avoir un décalage entre la ligne rouge du haut, là c'est l'exemple américain qui est particulièrement spectaculaire, l'exemple des États-Unis, où vous voyez la ligne rouge qui est la ligne classique, la ligne du produit intérieur brut, et la ligne noire, c'est l'indice de santé sociale. C'est un indicateur qui est calculé depuis 1959 par le Fordham Institute aux États-Unis, qui a ensuite été généralisé à partir des années 70, que plusieurs institutions internationales utilisent, et qui permet notamment de repérer la dégradation de la santé sociale d'une population donnée. Montée de la criminalité, mortalité infantile, non-traitement des problèmes de pauvreté, croissance destruction liée à des accidents de toute nature, etc. Et comme c'est un indicateur synthétique, on peut comparer cet indice de santé sociale au produit intérieur brut, et vous voyez qu'on peut se trouver dans la situation où le produit intérieur brut progresse, mais l'indice de santé sociale décroche. Et au passage, vous voyez que c'est à partir des années 80 qu'il y a une aggravation de ce décrochage aux États-Unis. Et qu'est-ce qui se passe en 1980 ? C'est l'élection de Ronald Reagan, c'est-à-dire la mise en œuvre de politiques de dérégulation et de mise en cause du système de protection sociale américain qui pourtant n'était déjà pas très brillant à l'époque. Quand on a un décalage de ce type, une coupure de ce type, on comprend bien que ça annonce, par exemple, l'incapacité qui a été celle de la première puissance économique mondiale au moment du cyclone sur la Louisiane de traiter le problème de la population noire et de la population pauvre, mais pour les mêmes raisons, un décalage de ce type peut annoncer les émeutes urbaines en Angleterre ou en France. Donc retenons que après la coupure dans le rapport à la nature, l'enjeu écologique, la coupure au sein même du lien social, qui est évidemment exprimée par ailleurs par la montée des inégalités, la destruction à terme, si on laisse faire, des classes moyennes, est un enjeu tout à fait fondamental et que du point de vue des alternatives, le rétablissement de ce rapport social, de ce rapport à l'humanité elle-même, va être déterminant. Et puis, voici un troisième exemple. Tiens, pourquoi il n'apparaît pas ? Alors là, il doit y avoir une... Ah, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant parce que de tous les graphiques, c'est le plus subversif. Et comme par hasard, il n'apparaît pas. Sinon, je vais vous le décrire à défaut de vous le montrer. Est-ce que le troisième apparaît là ?
Non, mais là, il n'est pas évident, en fait.
Ben alors, il y a un problème qui s'est passé. Est-ce que je peux l'avoir sur un autre ? Bon, sinon, ce n'est pas grave. Je vais vous le décrire. Mettez, par exemple, autre regard, là, pour voir s'il y est. Descendez encore. Non. Bon, décidément, je ne savais pas que les... Les effets... Bon, c'est pas grave. Je vais vous le décrire. Le troisième graphique, il est particulièrement spectaculaire quand on le voit, mais on peut tout à fait l'imaginer. C'est le graphique qui montre le découplage entre l'économie spéculative et l'économie réelle. C'est un découplage qui a été mis en évidence par un ancien haut fonctionnaire de la Banque centrale de Belgique, Bernard Liétard, qui, pour alerter ses collègues sur les effets d'insoutenabilité financière du modèle dominant, avait mis en évidence en 2007, donc un an avant la fameuse crise financière de 2008, la crise des subprimes et la faillite de la banque Lehman Brothers, que sur les 3200 milliards de dollars qui, à l'époque, étaient échangés quotidiennement sur les marchés financiers, moins de 3% correspondaient à des biens et des services réels, 2,7% exactement. Alors, quand c'est exprimé sur le plan graphique, c'est spectaculaire, parce qu'on voit que l'économie réelle, c'est vraiment l'épaisseur du trait à peine visible en bas d'une formidable montagne spéculative. Et donc ça, ça nous indique que même sur le terrain économique, pas simplement sur le terrain écologique, mais aussi sur le terrain économique, nous sommes en présence d'une coupure, d'une insoutenabilité, d'une insensibilité, et que ceci est caractéristique du modèle dominant actuel et de l'incapacité de ce modèle à se prolonger durablement, parce que tant qu'on n'aura pas traité, par exemple, la démesure de l'économie spéculative, eh bien, des crises comparables à celles de 2008, elles se reproduiront comme les répliques sismiques qu'on peut repérer dans des tremblements de terre. Et donc, quand on a repéré que cette triple coupure, rapport à la nature, rapport à autrui, et même rapport à l'économie proprement dit comme création et échange de richesses est caractéristique des problèmes globaux que nous rencontrons et provoque une situation d'insensibilisation majeure, tant le rapport à la nature que le rapport à autrui que le rapport à soi-même, à ce moment-là, on comprend bien aussi qu'au cœur de ce système dominant, il y a deux grandes pathologies qui se mettent en place. La première de ces pathologies, elle a été très bien décrite un jour par le Wall Street Journal, qui, lors du krach de 1987, dans un éditorial d'une rare lucidité, avait dit textuellement ceci: « Wall Street ne connaît que deux sentiments, l'euphorie et la panique ». Et l'ancien patron de la Banque fédérale américaine, Alan Greenspan, avait parlé à un moment donné de l'exubérance irrationnelle des marchés financiers. Et à l'exubérance irrationnelle correspond tout à fait les phases de dépression également irrationnelles. Or, quand on met en évidence ce couple euphorie-panique, ça rappelle quelque chose qui est assez connu sur le plan sanitaire, qui est la psychose maniaco-dépressive. Et on sait que dans un état de psychose maniaco-dépressive, la personne perd le contact avec le réel, y compris le réel économique, et que pour la protéger elle-même ou pour protéger ses proches, il est nécessaire de proposer des mesures de curatelle, voire de tutelle. Et donc nous sommes en présence d'une pathologie mondiale majeure, qui n'est pas simplement un problème de régulation, on pourrait presque dire que c'est à l'Organisation mondiale de la santé de s'occuper du problème majeur du dérèglement des marchés financiers qui sont entraînés dans cette forme pathologique de la psychose maniaco-dépressive qui est liée au fait qu'il n'y a plus d'arbitrage rationnel, il n'y a plus de vision à long terme. Il faut se souvenir que le temps moyen d'intervention sur les marchés financiers, c'est 5 secondes. Comment voulez-vous avoir une réflexion de sang-froid à long terme et avec des critères de rationalité dans cette situation-là? Vous êtes en permanence dans un mouvement mimétique et il suffit d'aller sur une salle de marché pour voir que la seule façon de tenir dans ces conditions-là, c'est d'être dopé. C'est pas par hasard si la très grande majorité des traders marchent à la cocaïne, parce que c'est pratiquement impossible de résister à la pression permanente, qu'elle soit du côté de l'euphorie ou que ce soit du côté de la panique dans une telle situation. Et puis, il y a une deuxième grande pathologie qui est provoquée par les conséquences de perte de rapport au réel que produit ce modèle-là. C'est ce que William Reich, dans les années 30, dans son livre « Psychopathologie du fascisme » qui mérite d'être visité, avait appelé la peste émotionnelle. C'est-à-dire, quand l'économie devient folle, les sociétés, les peuples finissent eux-mêmes par devenir fous. Et ce qu'il décrit comme étant la peste émotionnelle, c'est en particulier le problème qui se passe du côté des classes moyennes quand elles se rendent compte qu'elles sont en situation de déclassement pour elles-mêmes ou pour leurs enfants, où une analyse rationnelle devrait les conduire à se retourner contre les causes de ce déclassement, qui est justement l'exubérance ou la dépression financière, le poids de l'économie spéculative, le transfert massif au bénéfice du 1% les plus riches des revenus du travail. Hein. Il y a eu 40 000 milliards de dollars qui ont été transférés au cours des 35 dernières années des revenus du travail vers les revenus du capital. Celui qui le dit dans un bouquin récent, ce n'est pas un ultra-gauchiste, c'est un ancien Premier ministre en France, qui est Michel Rocard. Donc il y a un formidable détournement de fonds qui se traduit effectivement par la précarisation et la paupérisation des classes moyennes. Mais le problème qu'analyse Reich à travers le concept de peste émotionnelle, c'est que dans ces cas-là, plutôt que d'avoir une analyse rationnelle critique, pour maintenir la distance quand on se sent menacé, eh bien, on la maintient par rapport à plus pauvres, plus victimes que soi. Et c'est la raison pour laquelle les classes moyennes des années 30 se sont retournées contre les immigrés de l'époque, les Polonais, les Italiens, évidemment les Juifs, etc., utilisés comme boucs et émissaires, et ont fait effectivement le lit de la montée des phénomènes de type fasciste, nazi, etc. Et nous comprenons bien que dans la période actuelle, nous sommes à nouveau rentrés dans un cycle où ce problème de peste émotionnelle nous menace. Regardez la montée du racisme, la montée de la xénophobie, les logiques de bouc émissaire, parce que, évidemment, ça remplit sur le plan émotionnel des fonctions simplificatrices. Quand on peut dire c'est la faute aux Roms, c'est la faute aux immigrés, c'est la faute aux plus pauvres parce que l'assistanat nous coûte trop cher, bah, évidemment, on retrouve un sentiment de puissance, mais c'est une puissance destructrice qui est tournée contre autrui. Et il y a un lien systémique entre les deux pathologies que Joseph Stiglitz, l'un des prix Nobel d'économie hétérodoxe au cours de ces dernières années, a caractérisé comme étant le double fondamentalisme. D'un côté, ce qu'il appelle le fondamentalisme marchand, qui va détruire la substance même des sociétés et la substance du rapport à la nature. Et ce fondamentalisme marchand, il provoque en réaction un fondamentalisme identitaire pour retrouver du socle, retrouver des repères, retrouver un certain nombre de liens. On le fait, mais sous la forme du fondamentalisme, que ce soit un fondamentalisme identitaire de type religieux, les intégrismes, ou que ce soit, comme aujourd'hui en France, avec la montée du Front National, un fondamentalisme identitaire qui est non seulement fondée sur le chauvinisme, mais même sur une logique qui est carrément raciale et raciste. Alors ça, c'est du point de vue du diagnostic, et vous sentez bien qu'à partir du moment où les questions que vous vous posez dans vos secteurs deviennent utiles pour la compréhension de phénomènes globaux, les éléments de diagnostic vont aussi nous mettre sur la piste d'éléments qui, eux, sont de nature positive et alternative. Parce que quand on regarde, par exemple, face à ces logiques destructrices, la formidable créativité qui existe à l'échelle mondiale, et que vous trouvez exprimée, par exemple, dans un livre récent de Bénédicte Magnier, qui est une journaliste de l'AFP, qui a fait le tour du monde et qui a mis en évidence l'extraordinaire créativité citoyenne, y compris dans des situations de grande détresse, par exemple dans des villes comme Détroit, après la crise de l'automobile, où les deux tiers de la population partent et où les personnes confrontées à la situation de chaos, où les seuls commerces qui continuent d'exister sont les commerces d'armes et les commerces de drogue. Et puis, vous avez des initiatives par les groupes humains qui sont obligés de rester sur le terrain et qui retrouvent des logiques de vie, de survie d'abord, puis de vie ensuite, par exemple en disant « bon ben, nous allons transformer les friches industrielles en potagers urbains ». Et à partir de la première question qui est « comment on se nourrit dans cette situation de chaos ?», vous avez une reconstruction de liens économiques, de liens sociaux, de liens culturels, parce que une fois qu'on s'est réunis et qu'on a fait un grand repas pour célébrer le potager urbain, ben c'est aussi un temps festif, c'est aussi un temps culturel important, et puis on renoue sur un plan différent des liens avec le politique, parce que par exemple, ben, la question des friches industrielles sur le plan juridique, ben, c'est une propriété qui n'appartient pas aux citoyens, donc comment on fait pour construire des alliances qui font que, y compris sur le plan juridique, des déblocages vont intervenir. Je cite cet exemple sur Détroit, mais dans ce livre, vous en avez des centaines qui sont tous aussi probants. La façon dont, par exemple, dans des zones désertiques en Inde, comme le nord du Rajasthan, vous avez eu, au cours des 15 dernières années, un travail qui conduit à faire que vous trouvez pratiquement une Normandie au cœur de cette situation désertique, parce que des savoirs ancestraux d'irrigation et de fécondation ont été retrouvés, et que l'alliance entre les savoirs ancestraux et les réseaux modernes de télécommunications qui permettent la diffusion de ce type de technique à des milliers de personnes. Bref, c'est un autre exemple, et vous en avez dans le domaine écologique, vous en avez dans le domaine sanitaire, vous en avez dans le domaine de l'habitat. Sur tous les grands enjeux humains, vous voyez cette créativité citoyenne. Et quelle est la caractéristique fondamentale de cette créativité citoyenne? C'est justement la réintégration du lien sensible, rapport à la nature, exigences écologiques, rapport à autrui. Ce sont évidemment des stratégies de collaboration, de mutualisation, d'association, y compris dans des domaines tels que la mutation informationnelle. Toute la question des logiciels libres, de l'open source en est un très bon exemple. Et c'est aussi dans le rapport à soi-même. Quand vous voyez, par exemple, la montée et le succès des approches de type méditation de pleine conscience, qui maintenant, et encore récemment sur France 2, vous avez eu un grand reportage sur la façon dont ces approches sont de plus en plus reconnues et utilisées, tout ceci fait partie d'un mouvement de créativité où on a, au contraire, face aux trois coupures que j'évoquais antérieurement, un rétablissement du lien avec la nature, du lien avec autrui et du lien avec soi-même. Et d'une certaine façon, il y a une alternative à ce qu'on peut appeler le couple des mesures mal de vivre, parce qu'au cœur de l'insoutenabilité écologique, sociale et financière que j'ai évoquée tout à l'heure, vous avez ce que les Grecs appelaient la démesure, l'excès, l'hubris. Mais cette démesure, elle est liée à du mal-être, à du mal de vivre, à de la maltraitance. Ce qu'on sait sur le plan individuel, si une personne est boulimique, alcoolique, toxicomane, c'est un indicateur de mal-être. On peut faire la même démonstration sur le plan sociétal. Quand j'évoquais tout à l'heure la psychose maniaco-dépressive des marchés financiers, c'en est un exemple. Quand le rapport mondial des Nations Unies met en évidence que rien que les dépenses de drogue et de toxicomanie annuelles représentent 10 fois les sommes qui permettraient d'éradiquer la faim, de permettre l'accès à tous les habitants de la Terre à l'eau potable, d'assurer des soins de base et un logement décent, vous vous rendez compte ce que ça veut dire, la disproportion 10 fois, ben ça veut dire que l'économie mondiale de la drogue est une vaste économie du mal-être et du mal de vivre. Et c'est la même chose du côté de l'armement, qui représente 20 fois ces sommes. Donc il y a un couple qui est formé par la démesure et le mal-être, et à ce moment-là, on comprend bien que ce qui constitue un fil rouge commun de la créativité citoyenne, c'est de construire les éléments d'une alternative, alternative à la démesure. C'est l'acceptation des limites en termes écologiques, acceptation des limites dans le refus du creusement des inégalités sociales, acceptation des limites sur le plan de la régulation des mécanismes financiers pour éviter ce découplage meurtrier de l'économie réelle et de l'économie spéculative, acceptation des limites, tout simplement sur le plan démocratique face aux logiques d'abus de pouvoir et à la montée des despotismes. Donc ça, c'est du côté de l'acceptation des limites, mais tout autant nécessité de travailler sur l'alternative au mal de vivre, ce que le Forum social mondial de Belém, en Amazonie brésilienne, a appelé les stratégies de transition vers des sociétés du buen vivir. La question du bien vivre devient à ce moment-là une question éminemment politique, sociale et écologique, et pas simplement une question personnelle. Alors, du même coup, quand on a cette conscience-là, on se dit comment avancer dans l'accompagnement de ces forces vives face aux forces de destruction et construire les éléments de cette capacité alternative. Et c'est là que la première des pistes que l'on va trouver, eh bien, c'est de s'attaquer aux troubles du langage. Parce que tout ce que j'ai décrit tout à l'heure dans la première partie de mon propos a aussi comme caractéristique d'être exprimé, accompagné, renforcé par un détournement massif du langage, par une forme d'économisme dominant qui va tordre les mots les plus forts et les mots les plus simples jusqu'à en donner une vision au mieux réductrice, mais très souvent totalement inverse de leur sens originel. Je prends par exemple le mot de valeur. Le mot valeur, il est obsédant sur le plan économique. La chaîne de création de valeur, le but d'une entreprise, c'est de la création de valeur pour ses actionnaires, le value for money, etc., etc. Or, qu'est-ce que la valeur? Dans toutes les langues latines, valeur, ça veut dire la force de vie. La création de valeur, de la valeur ajoutée, c'est là où il y a une force de vie supplémentaire. Et inversement, il y a destruction de valeur à chaque fois qu'il y a destruction de force de vie. Et comme les deux sources de force de vie que nous connaissons, c'est d'un côté la nature et de l'autre côté les êtres humains, et la combinaison des deux sur les territoires, eh bien, si vous avez une destruction d'un écosystème majeur, par exemple une nappe phréatique polluée, eh bien, on va dire ça, c'est de la perte au sens de destruction de valeur. Et de la même façon, si vous avez par exemple une souffrance au travail telle que ça génère des suicides dans une entreprise, c'est de la destruction de valeur. Quand j'ai fait mon rapport au gouvernement « Reconsidérer la richesse », j'ai proposé qu'une des pistes à travailler soit les risques de dépôt de bilan pour raison écologique ou pour raison sociale, parce que justement des seuils d'insoutenabilité écologique ou d'insoutenabilité sociale peuvent mettre des organisations en danger. Et donc, si je prends le mot « valeur », nous comprenons bien que la réduction, voire le véritable coup de force sémantique qui en arrive à réserver la notion de valeur pour un groupe d'acteurs particuliers, par exemple quand on dit « seules les entreprises créent de la valeur » ou qu'en circonstances aggravantes, on en arrive à dire, comme le vocabulaire du business classique l'évoque, que le but d'une entreprise, c'est la création de valeur pour ses actionnaires, évidemment, on est totalement dans ce qu'il faut bien appeler des coups de force sémantiques. Et inversement, du point de vue positif, la récupération, le droit à dire « mais pas du tout », si la valeur, c'est de la force de vie, eh bien, il y a quantité d'acteurs qui sont créateurs de valeur, même si ces acteurs-là ne vont pas forcément créer cette valeur sous la forme de l'expression monétaire. Et du même coup, ça nous met sur la piste de revisiter un autre mot clé du vocabulaire économique qui est le mot de bénéfice. Le mot de bénéfice est de perte. Même si on n'a pas fait de latin, benefatio, on se dit bien que ça ne veut pas dire profit financier. Ça veut dire bienfait. C'est l'orientation vers des activités bénéfiques. Pour une raison que je n'ai pas le temps de développer ici, mais comme vous évoquiez tout à l'heure le XIIIe siècle et le Stabat Mater, ça nous vient du temps où le cœur de l'économie, c'était l'économie du salut, et l'outil clé dans l'économie du salut, c'est ce qu'on appelait la comptabilité du salut. Hein, imaginez des sociétés où la moyenne de vie ne dépasse pas 30 ans, où tout le monde croit dur comme fer à l'au-delà, et où, jusqu'au XIIe siècle, l'au-delà est structuré de façon binaire, enfer ou paradis, puisqu'il faut attendre, comme l'a montré l'historien Jacques Le Goff, le XIIe siècle, pour voir apparaître ce tiers espace dans l'au-delà qu'on appelle le purgatoire. Eh bien, imaginez des sociétés de ce type. La grande affaire de l'ici-bas, c'est comment on évite de perdre sa vie dans l'au-delà, parce que là, c'est la vie éternelle, et donc les choses sont beaucoup plus graves. Et l'un des outils de repérage, c'est la comptabilité du salut, où, dans la colonne positive de ce qui vous met sur la voie du salut, eh bien, vous avez le fait de faire des bienfaits, l'activité de bénéfice. Et puis, en face des bénéfices, vous avez les maléfices, ce qui conduit à des pertes et à des pertes dangereuses. C'est l'histoire des péchés mortels. Et il n'est pas inintéressant de savoir que le péché mortel le plus grave, celui qui vous envoie sans rémission vers la damnation éternelle, c'est aucun des sept péchés capitaux, c'est l'usure et le prêt à intérêt. Parce que c'est le blasphème suprême. Prétendre que l'argent est créateur dans le temps à travers la mécanique de l'intérêt composé, c'est mettre l'argent au même niveau que Dieu. Seul Dieu est créateur dans le temps. Et Jacques Le Goff raconte par exemple qu'un usurier qui veut éviter la damnation, il doit rendre toute la partie de sa fortune qui est liée à la capacité qu'a eu la monnaie de faire des petits par elle-même. Il a le droit de garder et donc de transmettre ce qui correspond un service rendu, où là, la contribution est légitime, mais la partie spéculative de son activité, elle, il faut qu'il rende cet argent sous peine de damnation. Je n'ai pas le temps d'aller plus loin, mais vous comprenez bien que c'est à partir de cela qu'on a ces termes étonnants, si on raisonne en termes monétaires, de bénéfices bien faits, et l'équivalent des maléfices derrière. Or, revisiter pleinement le sens des mots nous est très utile. Ce n'est pas simplement pour un intérêt rétrospectif et historique, Parce que quelles sont les questions fondamentales auxquelles nous sommes confrontés à chaque fois qu'on pose des problèmes de type développement durable, soutenable, responsabilité sociale, etc. C'est bien l'idée que nous avons impérativement besoin de faire retour sur un discernement concernant la nature des activités. Sont-elles bénéfiques ? Sont-elles nuisibles ? Et que de ce point de vue-là, les comptabilités monétaires non seulement ne nous renseignent pas sur cette question, mais peuvent même nous amener à dire le contraire du réel. Puisque vous avez quantité d'activités nuisibles, quantité d'activités maléfiques, j'ai parlé de l'économie de la drogue, de l'économie de l'armement, de l'économie du crime, etc., et qui vont générer des profits monétaires extrêmement importants. Et donc qui vont se retrouver dans la colonne des bénéfices monétaires, alors que ce sont à l'évidence des destructions, des nuisances, donc des sources de pertes. Et donc rétablir la force initiale du mot bénéfice, voilà une alternative au trouble du langage dominant qui est absolument nécessaire. Et du même coup, ça nous met aussi sur la voie de ce qui est au cœur aussi de vos travaux, qui est de réhabiliter, redonner son plein sens à la notion de métier, entendue, comme je le rappelais tout à l'heure, au sens de ministère mystérieux. C'est-à-dire les métiers, c'est quelque chose de beaucoup plus fort que les notions de job, d'emploi, a fortiori de travail, puisque les métiers, ils sont sur l'axe de projet de vie. Ils ne sont pas simplement autour de la question de l'état civil, que faites-vous dans la vie, mais ils sont au cœur de la question, que faisons-nous de notre vie. Et à ce moment-là, on comprend bien que les métiers qui vont aider à accompagner ces forces de vie, cet éros, pour reprendre le terme de Freud dans Malaise dans la civilisation, face aux logiques destructrices de Thanatos, ce sont justement les métiers qui vont permettre d'aider les collectivités humaines à rétablir ce lien face à l'insensibilisation, ce lien à la nature, ce lien à autrui par les stratégies collaboratives, ce lien à soi-même par le fait que la transformation personnelle doit être pensée comme étant complémentaire et non pas contradictoire avec la transformation sociale, et que ces métiers sont des métiers dans la logique des forces de vie, des ministères mystérieux. Et donc nous voyons bien là que dans la façon de sortir des troubles du langage dominant, de se reconnecter avec les forces de vie, on a là une piste tout à fait fondamentale, et évidemment tous les métiers comme les vôtres, nous avons impérativement besoin de les mutualiser, de les ouvrir plus largement. Hein. Vous évoquiez dans vos conclusions des nécessités d'ouverture, mais l'ouverture, il faut y compris la penser à des catégories de problèmes, à des catégories d'acteurs auxquels spontanément on ne pense pas quand on est par exemple dans des métiers comme les vôtres. Dire ben, par exemple la question du dérèglement de l'économie spéculative, eh bien, ça fait partie de nos métiers. Et à ce moment-là, on comprend bien, évidemment, que l'une des conditions essentielles, c'est la capacité de pluridisciplinarité, c'est la capacité de collaboration, c'est la capacité de décloisonnement entre des acteurs, des professions, et il faut entendre le mot profession, là aussi, dans son sens originel, professare, on ne peut professer que si on est habité par ce qu'on professe. C'est-à-dire il faut que les trois intelligences, intelligence du corps, intelligence du cœur, intelligence de l'esprit, pour reprendre un thème fameux des sagesses orientales, soient pleinement présents pour que la profession fonctionne. Et on n'est pas du tout à ce moment-là dans cette espèce de réduction techniciste quand on parle, par exemple, de professionnaliser un métier. Et donc, pour conclure, vous sentez bien que ce sont des métiers de la force de vie. Ce sont des métiers de l'éros. Et d'ailleurs, il n'est pas intéressant de rappeler que Eros en grec, c'est le même mot que valeur en latin. C'est la force de vie dans tous les cas. Donc ce sont des métiers de la force de vie qui sont là pour aider les collectivités humaines à éviter les logiques mortifères, les logiques de destruction. Et on comprend bien que au cœur de cette force de vie, au cœur de l'alternative au couple des mesures mal de vivre, vous avez effectivement une autre approche qui est celle évidemment de la coopération plutôt que des logiques guerrières et compétitives permanentes, mais aussi la question centrale de la joie de vivre. Comme le disait Spinoza, il y a deux émotions fondamentales chez les êtres humains, la peur et la joie. Derrière tous les phénomènes de domination, quand vous grattez, vous trouvez de la peur. L'alternative à la peur, c'est la joie de vivre. Et donc, considérer que la joie de vivre n'est pas simplement un enjeu personnel, mais que c'est aussi un enjeu de transformation sociétale, que justement, dans une transition vers des sociétés du buen vivir, l'aide mutuelle, la coopération mutuelle, pour apprendre à sortir du mal-être et de la maltraitance et aller vers le bien-vivre et s'entraider pour la joie de vivre, devient à ce moment-là un objet absolument fondamental. Et je dirais du même coup que dans une situation où la domination se fonde sur la maltraitance, que ce soit la domination de la captation de richesses, la domination de la captation de pouvoir ou la domination de la captation de sens à travers, par exemple, les intégrismes et les fondamentalismes, eh bien, si on identifie l'alternative à la peur par rapport à la joie de vivre, eh bien, on peut dire en ce sens que choisir d'être heureux est un acte de résistance légitime. Je vous remercie.
Un grand merci à Patrick Vivray pour cette ouverture rafraîchissante. Il nous a fait découvrir une acception à laquelle nous ne penserions pas nécessairement, de la notion de trouble du langage. Je trouve que c'est particulièrement enrichissant. Et il me reste à vous remercier tous et à vous inviter à retourner à nos ministères mystérieux et à essayer de promouvoir autour de nous la joie de vivre. Merci à tous.
Juste demande aux techniciens pour à la première.
Si vous pouvez faire l'opération de pour retirer la clé.
Ouais. Sur la troisième.
Je ne sais pas ce qui. Sur la troisième d'avis, je pense qu'elle est vide en fait. Enfin, il y a peut-être. Mais normalement, elle n'était pas vide. C'est pas grave, je le retrouverai entre temps. Voilà. Merci beaucoup.
Merci à vous.